reçu 80 000 appels en 2009 avec une très forte augmentation des appels pour des problèmes de stress au travail. En rugby, des nouvelles de l'équipe d'Angleterre qui affrontera la France dans le tournoi des Six Nations samedi prochain au Stade de France. Le sélectionneur anglais a procédé à 6 changements par rapport à la formation qui a concédé le nul en Écosse le week-end dernier. Est ainsi écarté le demi d'ouverture Johnny Wilkinson. Je vous rappelle que la France, si elle gagne samedi, remportera le tournoi en faisant le grand chelem.
Fonds retraite.
Allô, le 30-25? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis dans la fonction publique et j'ai entendu dire que pour moins de 20 euros par mois, je pouvais me constituer une rente à vie pour ma retraite. C'est vrai?
Préfonds vous répond au 30-25, appel gratuit ou sur préfonds-retraite.fr. Préfonds retraite. Complémentaire et nécessaire.
France Inter.
La différence.
15h04 sur Inter, je vous laisse avec Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Je ne sais pas si vous avez vu la télévision, mais depuis quelques années en France, il y a une super émission qui passe régulièrement. En fait, ça raconte l'histoire d'une équipe, et notamment d'un type, il y a un type surtout dans l'équipe, qui arrête pas de faire des conneries, qui raconte n'importe quoi, il ment, il se plante aux questions qu'on lui pose, et donc il se fait taper sur les doigts, il se prend des plus ou moins des décharges électriques, on le remet à sa place, il a plein de signaux d'alarme, et puis les gens l'aiment pas du tout, mais il continue, c'est assez rigolo, parce qu'il continue ses conneries, et toute l'équipe continue, ils sont tous ensemble, quoi, ils font des conneries à tour de bras, mais ils continuent tous ensemble, et apparemment l'émission doit durer jusqu'en 2012, et c'est produit par Élysée Productions. Et jusqu'en 2012, donc c'est intéressant et on ne sait pas trop comment ça va finir. Donc moi, j'ai hâte de voir en 2012 comment ça va se passer. Allez, tous devant les écrans. Salut.
Je m'associe évidemment aux hommages à propos de la mort de Jean Ferrat. J'appelais pour rectifier une petite erreur que Daniel Mermet a faite hier dans l'émission donc de lundi. Quand il a dit que la chanson « Pauvre petit con » était une chanson postérieure à 68, alors qu'elle a été enregistrée en décembre 67. Donc la fin de l'épisode, si j'ose dire, c'est qu'il a écrit une seule chanson sur mai 68, qui s'appelle donc « Au printemps, de quoi rêvais-tu » et qui a été enregistrée en janvier 69. Voilà. C'est pas très très grave, mais je voulais rectifier cette petite erreur. Mais ça n'enlève rien à cette chanson intemporelle qui s'appelle « Pauvre petit con ». Et encore merci pour tout ce que vous faites, en particulier donc ces émissions sur Jean Ferrat et sur celle d'aujourd'hui, le faussaire, là, c'est formidable. C'est l'épisode de la signature. Là. Merci encore, au revoir, Alain du Puy-de-Dôme.
Allô, j'ai 87 ans. Je suis absolument désespérée de la mort de Jean Ferrat. Et je voulais remercier de tout mon cœur Daniel Mermet de nous avoir fait passer une heure avec lui. Cet être irremplaçable que j'ai rencontré à la fête de l'humanité où il y avait une 300 personnes. Il restera à jamais dans notre cœur. Voilà. Et merci à tous de l'honorer et de le garder précieusement pour tout ce qu'il a représenté de poète, de musicien et de rébellion et de dénonciation de toutes les horreurs de notre vie. Nous perdons un grand poète, un chanteur absolument merveilleux. Merci à vous de tout mon cœur. Je suis Jacqueline et j'ai 87 ans. Il a accompagné toute ma vie. Et je garderai toujours, toujours sa musique dans mon cœur. Merci, à bientôt.
Alors j'écoute tout ce qu'on dit sur Jean Ferrat et les appels. Alors, je vous en prie, arrêtez de pleurer sur Jean Ferrat. Ne pleurez pas Jean Ferrat. On ne pleure pas Jean Ferrat. Jean Ferrat, on l'écoute, on chante avec lui, on rêve Jean Ferrat, on prend la relève de Jean Ferrat. Et on ne pleure pas Jean Ferrat. Jean Ferrat, on n'aurait pas aimé. Jean Ferrat a été quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aimait la vie. Arrêtez de pleurer. Jean Ferrat est vivant si vous reprenez le flambeau de Jean Ferrat. Allez, salut.
Salut Daniel et les AMG. Ce soir,
la télé publique présentera une interprétation biaisée sous forme de jeu de la mort de l'expérience de Milgram sur l'obéissance à l'autorité, avec public et animateur complice. Mais si on prend le point de vue de Milgram, l'objet du test n'est-il pas l'animateur lui-même qui a accepté de présenter ce prétendu jeu, montrant ainsi sa soumission à l'autorité, animateur prêt à tout pour être à la télé? Combien d'animateurs auraient accepté et combien auraient refusé? Bon courage Daniel, continue.
J'écoute sidéré depuis ce matin le matraquage médiatique sur France Inter concernant le pseudo-documentaire qui va passer ce soir là, relatif à l'expérience de Milgram. Bon, bah ça laisse augurer que du meilleur, quoi. Je pense que ce soir, à l'issue de l'émission, on va pouvoir finaliser la pseudo-étude scientifique pour comptabiliser le nombre de millions d'abrutis qui vont regarder ça, soit avec délectation, ou soit en se positionnant tel un héros, moi je n'aurais jamais fait ça, et tout ça, ça va être bien. Je pense qu'il y aura quelques bons petits encarts publicitaires aussi, qui vont être loués des millions pour qu'elles vantent quelques produits intelligents. Et puis voilà, quoi, donc finalement moi aussi je participe à ce grand raout médiatique. Voilà l'expérience de Milgram. Je ne sais plus quoi dire du coup. Donc bonne émission ce soir. Je pense que ça va nous permettre de tenir avec un bon sujet fédérateur jusqu'au mois dimanche, quoi. On va en parler dans les chaumières, sur les lieux de boulot et tout ça, quoi. Et puis sinon, pour conclure, la semaine prochaine, c'est la semaine sans écran, ce qui ferait pas mal de bien à pas mal de gens.
Voilà, merci pour ces messages, chers AMG. En effet, évidemment, le conseil, c'est surtout de ne pas regarder cette émission ce soir, bien évidemment, au moins pour désobéir, puisque on nous y contraint, on nous y invite, on nous y conduit, donc on va pas le faire. Mais surtout, ce qui serait terrible, c'est si nous prenions conscience de ce qu'est la soumission à l'autorité et ce qu'est la servitude volontaire. C'est une vieille affaire, la servitude volontaire. Il faut se référer à la Boétie. Et bien sûr que la soumission à l'autorité est bien connue depuis fort longtemps, depuis au moins qu'existent des armées. Le dressage humain est une vieille histoire depuis qu'existent des religions. Se plier à la loi de Dieu, se soumettre, est une vieille histoire. Bref, on espère que cette émission ne visera que l'emprise de la télévision, parce que s'il fallait que cette émission remette en cause le pouvoir lui-même, eh bien, on encouragerait la désobéissance, on encouragerait la dissidence, on encouragerait l'insoumission, et on applaudirait les mutins divers et variés. Et ça, heureusement que nous ne sommes pas prêts de le faire. Et on applaudirait aussi les journalistes récalcitrants et désobéissants. Et ça, il n'en est pas question. Donc, ne regardez pas cette émission ce soir. Vous avez compris. Aujourd'hui, eh ben, voilà un récalcitrant que nous retrouvons, un véritable opposant, un véritable résistant, Adolfo Kaminski, dont nous avons commencé à raconter l'histoire hier, dont il a commencé lui-même à raconter sa propre histoire, puisque sa fille, Sarah, est l'auteur d'un livre sur son père, Adolfo Kaminski, un faussaire, une vie de faussaire. Pendant 30 années de sa vie, Adolfo Kaminski a, 84 ans aujourd'hui, a fabriqué des faux papiers pour des résistants, pour des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, pour un certain nombre de causes, de militants, jusqu'au début des années 70. Il n'était pas connu, ou peu connu, et puis il y a ce livre qui sort, et cet homme qui apparaît comme une parfaite figure, justement, de la désobéissance et de la dissidence. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, j'ai beaucoup aimé cette première émission sur Adolfo Kaminski, d'autant plus qu'a débuté le 15 mars en Isère le 9e festival isérois du film sur la résistance. Mardi 23 mars, à la bibliothèque du centre-ville de Grenoble, aura lieu une projection, justement, de Faux et usage de faux, d'un documentaire de Jacques Falck et de Jérôme Neutre, en présence de Monsieur Kaminski et sa fille Sarah. Voilà, c'était Colette en Isère.
Eh bien, actuellement, nous sommes, nous, Français, extrêmement inquiets d'apprendre qu'il a été question d'un remaniement ministériel à la suite des catastrophiques résultats des élections régionales. Eh bien, j'appelle aujourd'hui pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un remaniement ministériel, mais bel et bien d'un remaniement présidentiel. Et ouais, ce n'est pas les ministres qu'on va changer, c'est le président. Il va se remanier lui-même. Remanie-toi, Nicolas.
Trop de dépenses inutiles dans les institutions? Alors, on rationalise les budgets, on contrôle, on classe, on calcule, on comptabilise la pensée en minutes, on traduit l'intelligence en polyvalence, on découpe l'humain en cerveau disponible, on vend l'intuition en biens de consommation, on chasse l'absence, la rêverie, le vide, l'écart, le doute, le temps suspendu pour le remplir du tout rentable. Vite, à tout prix, celui de la déshumanisation de ceux qui s'adressaient hier à l'humain, la santé, la justice, l'éducation. C'est le sujet du prochain repère de Nantes, vendredi 19 mars, 19h19, au Méliès.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du statut d'auto-entrepreneur. Et puis ce matin, au journal de 8h, on vantait les excellents chiffres de cette nouvelle structure. Et puis ce n'est que quelques heures plus tard, au journal de 13h, qu'on a appris pourquoi en fait ces chiffres étaient aussi bons, puisqu'on a interviewé quelques sans-papiers qui siègent actuellement dans un restaurant chic de Neuilly. Et voilà, c'est son papier qui explique qu'en gros, on les a forcés à prendre le statut d'auto-entrepreneur parce que sinon, ils seraient virés. Alors, je me souviens de votre excellent reportage lors de la création du statut d'auto-entrepreneur et puis ce serait bien que vous continuiez à creuser un peu le sujet. Voilà, c'était Flore de Berlin.
Bonjour à tous les AMG, bonjour Daniel Mermet. Depuis le 12 mars, les travailleurs sans papier du chantier CGC de Massy sont en grève pour leur régularisation. La CGT de Massy, la CIMAD et RESF vous invitent à une fête de soutien samedi prochain à Massy, donc dans les locaux de la CIMAD, 80 rue du 8 mai. Pour un repas et un concert, le prix d'entrée est de 10 euros et tous les fonds seront reversés au sans-papiers. Merci, au revoir.
J'ai vu une femme de 104 ans sur un brancard. J'ai vu des bébés, j'ai vu des malades, des gens qui tenaient à peine sur leurs jambes de tout âge. Et on savait que c'était pour Pichipoy. Pichipoy est un mot qui ne veut rien dire, c'était l'humour juif, si l'on veut, pour dire nulle part. On savait très bien que c'était pour être exterminé. Nous avons été arrêtés à Vire, dans un camion bâché, par la Gestapo directement. On nous a transférés en chemin de fer vers Drancy. C'est un peu comme si j'avais abandonné tous les gens qui ont défilé, les milliers de gens qui ont défilé pour être déportés pendant les 3 mois que j'ai passé à Drancy, où tous sont passés au four, sauf moi. C'est assez difficile à supporter. L'histoire de la culpabilité du survivant n'est pas une histoire banale.
Et vous en avez fabriqué combien au total des faux papiers?
Impossible à savoir, des dizaines de milliers, mais je ne sais pas combien. On savait qu'il y aurait une rafle dans tel quartier, et puis les gens n'étaient pas tous prêts a accepté les faux papiers. Il y a des gens qui disaient « Mais nous sommes en règle, nous sommes français, nous n'avons rien fait de mal, nous portons l'étoile bien en évidence, nous sommes scrupuleusement honnêtes et nous n'allons pas vivre avec des faux papiers parce que ça c'est malhonnête. »
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire.
Flight number 2, arriving from New York.
Comment ça s'appelle un appareil photo comme ça ?
Une chambre en bois.
Donc ça, c'est un appareil comme on voit dans les westerns ou bien dans les films de 1914 où on met sa tête sous un bout de tissu et là, on imagine que quand elle se met à marcher, il y a un gros éclair blanc qui jaillit. Et là, dans votre salon, il y a aussi, j'imagine que ce sont vos photographies.
Quelques photos, oui, que j'avais faites Paris la nuit, de Paris que j'aime. Juste après-guerre, oui, avant-guerre, je faisais pas de photos, puisque j'ai appris la photo tout seul, pas pour faire les faux tampons.
Et alors, depuis que le livre est paru, depuis qu'on sait que Adolfo Kaminski, c'est le champion des faussaires, qui peut vous faire vos faux papiers en 10 minutes, comme on met vos photos d'identité en 3 minutes, est-ce que, du coup, vous avez lié des contacts avec le réseau Éducation sans frontières du 15e arrondissement, et que tous les collectifs de sans-papiers défilent dans votre petit appartement ?
Que les gens aient besoin de papiers aujourd'hui, je trouve ça déplorable. Mais ce ne serait pas les aider que de leur faire des faux papiers, parce que les faux papiers sont faits pour échapper à une police, passer des frontières, enfin, ils ne sont pas faits pour vivre toute une vie avec.
La boussole morale. La boussole morale. Voilà ce qui fait que un homme, une femme résiste, obéit non pas aux ordres, mais obéit à soi-même, obéit à sa conscience, la boussole morale. Et est-ce qu'on en a chacun une ? Sans doute. Chez certains, elle est plus claire, elle est plus forte, elle est plus concrète que chez d'autres. Et chez Adolfo Kaminski, cette boussole morale, il vient de le rappeler, c'est la culpabilité du survivant. Il a passé 3 mois à Drancy, il a été interné à Drancy pendant 3 mois, puis au bout des 3 mois, il a été libéré. Pourquoi ? Parce qu'il avait des papiers argentins. Les hasards de la vie et de la fuite avaient voulu qu'il naisse en Argentine en 1925, de parents juifs russes fuyant les pogroms, et donc il avait des papiers argentins et il a réussi, chance, il a raconté, évoqué hier que ces papiers fassent que et il pouvait sortir de ce camp. Mais il n'a pas oublié ce qu'il y a vu, et ce qu'il y a vu sont partis pour Pichipoy, c'est-à-dire pour leur destruction, ce dont ils étaient bien conscients. Voilà pourquoi, quand l'occasion s'est présentée, les hasards de sa formation de chimiste, de petit chimiste, ont fait que ben il s'est engagé dans cette fabrication de faux papiers pour soutenir, pour aider, pour tâcher de sauver des vies, bien évidemment, parce que chaque faux papier permettait de sauver une vie. Et les commandes arrivaient, il nous a raconté comment les commandes arrivaient, et il fallait absolument travailler, en faire le plus possible, parce que ne pas faire un papier, c'était risquer la mort de quelqu'un, c'était tuer quelqu'un, ou laisser tuer quelqu'un. Voilà, un homme à vif, avec une conscience à vif, vive, et qui raconte. Et qui raconte aussi ce qu'il vient d'évoquer, c'est comment il y avait un réseau qui militait pour apporter à des familles juives des faux papiers. alors que ses familles portaient l'étoile, étaient en règle, et s'imaginaient que, voilà, dans un pays comme la France, le pays des droits de l'homme, pays dans lequel il vivait très bien, bien sûr qu'on n'allait pas les arrêter et les conduire là où l'on disait qu'on conduisait les Juifs. Bien sûr que ça pouvait pas arriver. Donc, il raconte comment il lui arrivait, comme militant, de venir voir des familles et leur dire, voilà, prenez ces faux papiers, vous ne vous appelez plus Rosenblum, mais vous vous appelez Durand. Et les familles disaient, mais on s'appelle Rosenblum, on est très fiers et on veut rester dans cette France. Voilà la question de l'insoumission, de la soumission, de la connaissance et de ces tragédies. Bien sûr, ce sont des choses très aiguës, très fortes. Encore une fois, ce que je disais hier, je le répète aujourd'hui, tout ça n'a de sens que si nous trouvons le moyen d'utiliser ces histoires, ces comportements et ces boussoles pour aujourd'hui. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire.
À mesure que nous avançons vers notre triste condition d'insecte, je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible, de part de tranche de cible, à tout ce qu'il ouvre bien grand, activistes et manifestants, à nos amis anarchistes, à tous les fous terroristes. C'est pour qui la démocratie se vide de son sens si elle n'inclut plus le droit de dire non sans qu'une faction de flics fonde sur toi. Enfin, aux luttes fières et exemplaires dont nous sommes chacun tributaires des vagues d'immigration venues enrichir le sol, le sang et le sens de cette nation. À l'heure où la noblesse d'État et son américain d'avocat veulent nous donner des leçons sur l'effort de soumission, je porte un toast à la colère légitime et sans savoir-faire, parce que le c'est déjà ça, c'est à elle qu'on le doit.
Un ami m'a emmené en jeep, une jeep américaine en Allemagne, où j'ai vu les camps de personnes déplacées, et j'ai accepté d'aider ces gens à aller vers la Palestine. Les rescapés des camps, qui n'avaient plus où aller, qui ne pouvaient pas repartir ni en Pologne, ni en Russie, ni en Allemagne, ni en France d'ailleurs, beaucoup refusaient de revenir en France, un pays qui les avait trahis, ils voulaient aller en Palestine. Et alors à cette époque, qu'ils soient médecins, avocats, ou c'était pour aller travailler la terre de leurs propres mains, donc il y avait l'occupation anglaise de la Palestine, et j'ai aidé un groupe judéo-arabe qui poussait les Anglais dehors, et puis...
C'est-à-dire vous refaites des faux papiers à nouveau?
Oui, je refais des faux papiers à nouveau, et beaucoup. J'avais l'intention d'y aller moi-même, j'y ai d'ailleurs envoyé ma petite sœur, puisque je me suis occupé de mon petit frère et de ma petite sœur, qui ont été placés dans des fermes, et puis l'État d'Israël a été créé en 48, et Ben Gurion a fait un pays avec une religion d'État. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était très difficile à admettre,
Vous aviez envisagé d'aller dans les kibboutz aussi à votre tour, mais quand vous voyez que c'est la religion juive qui est la religion d'État en Israël, vous dites non, c'est pas pour moi.
Oui, c'est ça. Quelle que soit cette religion, je ne peux pas admettre que l'on fasse une religion d'État. Ça veut dire des gens qui ont des droits différents s'ils n'ont pas cette religion. C'est-à-dire une injustice.
Alors finalement, si en ce moment il y a le conflit entre Israéliens et Palestiniens, c'est un peu à cause de vous. C'est un peu parce que vous avez produit par dizaines, par centaines, peut-être par milliers, des faux papiers pour permettre aux Juifs d'Europe de s'installer dans les kibboutz.
Bien sûr, pour moi, c'est toujours des déceptions.
À l'époque, vous espériez un État israélo-palestinien commun ?
Oui.
Avec des Arabes et des Juifs côte à côte.
Ben évidemment, ils s'apportaient beaucoup.
Ce que vous allez réussir finalement beaucoup plus tard avec votre femme, quoi.
Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est pas inconscient, c'est un choix. Et je ne le regrette pas.
Il faut lire ce livre passionnant d'un bout à l'autre, Adolfo Kaminski, La vie, une vie de faussaire, à la libération de Paris. Il nous a raconté hier comment, pendant toute la guerre, très jeune homme qu'il était, il a donc fabriqué des faux papiers, pas seul, permettant à des milliers de Juifs d'échapper aux persécutions. Mais à la libération, il a été engagé par les services secrets militaires français, mais ça ne lui a pas plu. Il a démissionné au moment des prémices de la guerre d'Indochine dans les années 50 parce qu'il ne voulait pas collaborer à la guerre coloniale. C'est-à-dire que la boussole morale d'Adolfo était doublée d'une conscience politique très étayée et bien précise et bien forte malgré cette voix très douce qu'il a aujourd'hui à 84 ans, qu'il a probablement toujours eu. Et ensuite, c'est ce qu'il vient de nous dire, il va, dans l'enthousiasme des lendemains de cette guerre, enthousiasme vers la Palestine, vers les kibboutz, vers la construction d'un État où les Juifs auraient leur patrie, seraient chez eux, après tout ce qui leur était arrivé dans cet enthousiasme-là. Il soutient des groupes comme la Haganah, comme le groupe Stern, qui sont, la Haganah et le groupe Stern étaient des groupes tout à fait terroristes, et qui se proclamaient ainsi eux-mêmes, mais qui ont contribué à la naissance et à la construction d'Israël. Et il va aider les migrations juives vers la Palestine de 1946 à 1948, date de la création de l'État d'Israël.
Dans ça, il y a un épisode où vous avez failli devenir terroriste.
J'ai donc aidé le groupe Stern, qui était un groupuscule judéo arabe. Bon, j'ai rendu plein de services et un beau jour, on m'a demandé de faire une bombe. Alors, moi, je suis non-violent.
C'était au moment où la Palestine était encore occupée par les Anglais.
Oui.
Donc, c'était une bombe qui devait aider à la libération du territoire palestinien.
Théoriquement, qui était en tout cas une bombe qui était faite pour tuer un ministre. À l'époque, c'était Bevin.
Donc, le ministre des Affaires étrangères anglais.
C'est ça, oui, qui était opposé au départ des troupes anglaises, etc. Mais pourquoi tuer un homme ? Aujourd'hui, on m'a dit, mais pourquoi n'as-tu pas refusé ? Parce que si j'avais refusé, quelqu'un d'autre l'aurait fait et n'aurait pas fait comme moi, c'est-à-dire...
Donc finalement, vous avez accepté de fabriquer cette bombe, alors ?
J'ai accepté de fabriquer cette bombe, simplement, j'ai enlevé tout l'explosif, j'ai mis de la pâte à modeler à la place, et j'ai quand même fait un détonateur qui ne marchait pas. Quelqu'un s'est chargé de porter cette bombe, il y a toute une histoire, pour moi...
Donc finalement, la bombe, elle a explosé ou pas ?
Non, elle n'a pas explosé, puisqu'elle était faite pour ne pas exploser. Moi, j'ai fait ce qu'il faut.
Finalement, vous avez dit « j'accepte », justement pour pouvoir saboter l'opération.
Oui, parce que si j'avais refusé, il se serait adressé à quelqu'un d'autre.
C'est ce que je trouve le mieux dans votre parcours. Ces moments, à la limite, dans tous les moments où vous faites des faux papiers, on peut se dire « bon, bah, c'est un bon technicien ». Vous voyez, vous êtes un bon artiste du faux papier, vous arrivez à mettre en place des procédés, vous fabriquez ça par dizaines, par centaines, par milliers. On peut être admiratif, mais comme d'un technicien. Mais en revanche, sur le plan politique, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort dans votre parcours, c'est ces moments où vous dites non. C'est non je ne resterai pas dans l'armée française s'il s'agit de préparer la guerre en Indochine et donc d'aider à mener une guerre coloniale. C'est de dire non, je ne n'aiderai pas à assassiner un ministre, fût-il le ministre des Affaires étrangères anglaise. C'est parce que vous auriez pu basculer aussi dans le banditisme, par exemple. C'est de dire non, je fabriquerai pas des faux billets. Non, je fabriquerai pas des bombes. Vous auriez pu basculer dans l'ultra-gauche et devenir un terroriste. Et là encore, vous dites non. C'est-à-dire que c'est comme si, alors que vous êtes toujours, quand même, vous êtes sur le fil, vous n'aidez pas tout le temps des groupes qui ont les mains propres non plus, et pourtant, c'est comme si dans tout votre parcours, il y avait une boussole qui vous permettait par moment de dire non et de dire, ben voilà, ça, c'est pas pour moi.
Pendant la majorité de mes activités clandestines, je refusais d'être payé pour ne pas être un mercenaire et pour ne pas être obligé, justement, d'accepter tout et n'importe quoi.
Alors, là, on se trouve plus dans votre appartement, Monsieur Kaminski. On se trouve au 8e étage de France Inter, dans un studio d'enregistrement téléphonique. Parce que moi, pour que je voie mes copains, il suffit que je traverse la ville d'Amiens, ou que j'aille à Longo, ou à Dury, ou à Camon. Mais vous, pour retrouver vos camarades, il faut qu'on aille. Alors là, je vois, il y a du Israël, il y a de l'Algérie, et il y a du Portugal.
Oui, il y a aussi l'Amérique latine, il y a aussi l'Afrique du Sud, il y a... Mais bon, je n'ai pas voulu déranger tout le monde et puis ni commencer à remuer trop un passé qui est quelquefois assez lourd.
Dis donc, vous devez avoir des sacrées factures téléphoniques, alors, si vous appelez tous vos copains comme ça.
Non, je les appelle pas, justement. On se parle pas, on sait qu'on existe. Et de temps en temps, il y en a un qui apparaît.
Bon, bah là, c'est France Inter qui réglera la facture, de toute façon.
Allô?
Allô? Suzy?
Oui?
Comment vas-tu?
Bien, et toi?
Oui, ça va. Voilà, je suis à la radio.
Oui?
Et je vais te passer la personne qui s'occupe de cette émission.
Bonjour. Quand est-ce que vous avez rencontré Monsieur Kaminski pour la première fois?
C'était en 1943. Je pense qu'il était déjà avant moi au laboratoire. Mon travail, comme j'étais... je suis douée en dessin, je suis peintre. C'était les imitations des écritures. Et dès le début, ce qui nous a frappé chez Ado, c'était une capacité d'invention, d'utiliser des choses très simples pour arriver à des résultats merveilleux. Je me rappelle qu'à un moment, il avait besoin d'une... attendez, comment ça s'appelle ? Centrifugeuse, c'est ça. Et alors, il employait une roue de bicyclette.
C'était le MacGyver des faussaires, quoi.
Oui. Ensuite, moi, je ne demandais qu'une chose, c'était de retourner à mes études aux Beaux-Arts, tandis que lui, Ado, a continué à sauver le monde entier.
Et maintenant, vous vivez en Israël?
Oui.
Vous êtes parti avec des vrais papiers ou avec des faux papiers fabriqués par Adolfo en Israël?
Non, attendez. Je suis née en Autriche. Et ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais envie que les Allemands voient. Alors, on avait corrigé ça en écrivant que j'étais née à Paris. Et alors, c'est avec cette carte d'identité-là que je suis arrivée ici.
Avec une fausse carte d'identité?
Non, une vraie, mais il n'y avait que l'endroit de naissance.
Oui, parce que si moi, je change mon lieu de naissance sur ma carte d'identité, je considère quand même que c'est un faux. Tandis que vous considérez que c'est une vraie, quoi.
Presque vrai. Les papiers français, à cette époque-là, on pouvait faire n'importe quoi, ils ne changeaient pas de couleur, ils étaient vraiment parfaits.
C'était pas des passeports biométriques, quoi.
Ah non, c'était pas aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus difficile. À la prochaine guerre, ça sera beaucoup plus difficile.
Bon, souhaitons pas que ça nous arrive.
J'espère que non.
Au revoir.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir, à bientôt. Au revoir.
Après Israël, il y a quelques années de répit, mais vous replongez dans la fabrique de faux papiers avec la guerre d'Algérie.
Oui, pour moi, il était inadmissible que la France utilise les méthodes nazies, la torture, le racisme, la ségrégation, le colonialisme. Et c'est pas pour les Algériens contre la France, c'est pour l'honneur de la France que j'ai fait ça. Bien sûr, j'ai appris à connaître les Algériens que j'aime.
Avec la guerre d'Algérie, en même temps, enfin, ou un peu après, vous travaillez pour 15 pays différents. Pour la Grèce, l'Afrique noire, la Guinée, l'Angola, l'Espagne, le Brésil, le Mexique, le Guatemala. Enfin bon, où, dans votre atelier, c'est toutes les luttes de décolonisation qui se concentrent en un seul point. Dans votre atelier, 15, vous avez 15 commanditaires différents. Mais alors comment vous faites pour, pendant ce temps-là, pour échapper? Parce que autour de vous, les arrestations, elles pleuvent autour de vous. Et vous, ben, vous restez à l'abri.
J'ai la réputation d'avoir très mauvais caractère parce que j'imposais une discipline et il y avait le chantage permanent où je disais, si vous ne prenez pas les précautions que je vous impose, j'arrête tout de suite.
Alors quelles sont les mesures, quelle est la discipline que je dois instaurer si je ne veux pas me faire piquer, moi?
Bon, d'abord, ne jamais parler au téléphone. Ensuite, dans les rendez-vous, avoir un système qui, si vous dites demain à 14h, il faut un système pour savoir que cette fois, demain, ça veut dire tout de suite ou dans 3 jours, et 14h, ça veut dire 9h du matin, etc. Enfin,
quand je dis noir, ça veut dire blanc, quoi.
Oui, pas de bavardage, pas de ventrie, etc. Enfin, c'est tout un autre monde. J'ai été obligé de prendre la clandestinité moi-même. J'ai passé plusieurs années en Belgique.
Oui, allô?
Allô, Annette?
Oui. Oui. Ah oui, bonjour, ça va?
Oui, bonjour, oui, je t'appelle.
Je te reconnais.
Tu es toujours d'accord pour raconter un petit peu.
Alors, c'est à cause de vous ou grâce à vous que M. Kaminski s'est engagé pour le FLN?
Ben, je pense que plus tard, il aurait peut-être rencontré quelqu'un d'autre.
Mais comment vous saviez qu'il produisait des faux papiers?
Il ne me l'a pas vraiment dit, mais je l'ai compris, parce que ça, c'est le pif des anciens résistants, si vous voulez aller par là.
Vous avez vous-même bénéficié de papiers par M. Kaminski?
Oui, j'ai bénéficié c'était un passeport d'une amie qui était, comme moi, un médecin à Marseille, qui m'avait donné son passeport et qu'on a falsifié, voilà.
Et pourquoi faire, alors?
Je crois qu'il m'a fait aussi un permis de conduire.
Oui, et puis surtout, après ton évasion, entre guillemets,
oui.
Il a fallu des papiers pour partir.
Voilà.
Parce que vous êtes évadé?
Bien. J'ai été arrêtée, moi, en octobre 1959. J'étais enceinte et ils ont réussi à me faire sortir par un truc comme quoi j'allais mourir le lendemain, vous voyez, voilà. Et quand j'étais dehors, évidemment, c'était pour m'échapper. Je suis arrivée et je suis partie clandestinement en Tunisie. Après, donc, je lui ai redemandé de retravailler un petit peu pour des gens dont je m'occupais, notamment à la fin du printemps de Prague, si je puis dire, au moment de la reprise du pouvoir et des arrestations après le printemps de Prague. Je lui ai demandé de faire quelques papiers que j'ai emmenés moi-même en Tchécoslovaquie, par exemple.
D'accord.
Je lui ai demandé aussi, les généraux grecs, je lui ai demandé, lui ai présenté une amie qui cherchait un réseau pour faux papiers.
C'est devenu votre fournisseur officiel.
Après, je n'en ai plus besoin parce que je suis trop vieille, voilà.
Et donc là, vous n'avez pas d'amis retraités à exfiltrer?
Voilà, pour l'instant, je n'en vois pas pour l'instant.
Et là, maintenant, vous avez des vrais papiers ou...
Ah oui, j'ai des vrais papiers, ne vous inquiétez pas.
Alors, on sourit des années plus tard, mais les aimables personnes que nous écoutons, personnes âgées, Adolfo a 84 ans, je ne sais pas quel est l'âge d'Annette, mais elle a fait quand même beaucoup de choses dans sa vie et dans leur jeunesse. C'était des gens qui étaient complètement rejetés, qui étaient des terroristes, bel et bien considérés comme des terroristes et qui se vivaient aussi comme tels. C'est très difficile de désobéir, je le disais hier, sur le plan affectif.
c'est s'isoler, c'est vivre dans la clandestinité, c'est s'aliéner, c'est-à-dire couper les liens, c'est vivre en réseau, avec tout le côté isolé, le côté... C'est très difficile à vivre. Ils l'ont fait aujourd'hui, et ils ont au moins ce plaisir de ne pas avoir, de ne pas connaître le déshonneur, de ne pas avoir essayé.
Quand est-ce que vous décidez d'arrêter ?
J'ai décidé d'arrêter en 70 parce que on m'avait demandé de faire des passeports pour l'Afrique du Sud. On m'a donné un modèle, j'ai donc fait tout le nécessaire et j'ai rendu l'original à la personne qui me l'avait donné. 15 jours plus tard, j'ai été voir quelqu'un qui me donne le même passeport avec la même photo.
Le même passeport que la première fois.
Le même passeport avec la même photo. Et puis, un mois plus tard, ça c'est un manque de sérieux absolu, j'ai décidé d'arrêter. En plus, j'étais vraiment épuisé physiquement. Et puis, j'étais couvert de dettes. Et puis, je ne pouvais pas accepter d'être payé parce que je devenais dépendant et j'aurais dû accepter le tout et n'importe quoi. Donc.
Alors, en 71, vous arrêtez ? Vous aurez bientôt une vie de bon père de famille, alors ?
Oui.
Sur le tard ?
Oui, c'était pas prévu. Enfin,
vous appelez ça une vie bonus, même. Vous dites, j'ai eu une deuxième... Enfin, j'ai eu une vie bonus.
Oui, une vie bonus, oui.
Comme dans les jeux électroniques.
Oui, voilà. Ça a donné d'abord deux garçons et puis en troisième, ma fille.
Pendant que vous aidiez des personnes pour la Guinée, l'Espagne, le Brésil, le Mexique, le Guatemala et ainsi de suite, pendant tout ce temps-là où vous fabriquiez des papiers, vous les aviez le sentiment de sauver des vies ?
Oui, absolument, sans quoi je ne l'aurais pas fait.
Enfin, c'est comme si c'était Drancy que vous évitiez ?
Oui, parce qu'il faut savoir que les dictatures... aussi bien au Portugal, regardez ce qui s'est passé au Chili, regardez, bon, c'était toujours dans la folie absolue, enfin, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre, mais de sauver quelques vies chaque fois que ça a été possible, c'est important. J'ai eu la chance... pour ma propre survie, d'avoir pu sauver autant de gens. C'est un peu comme si j'avais abandonné tous les gens qui ont défilé, les milliers de gens qui ont défilé pour être déportés pendant les 3 mois que j'ai passé à Drancy, où tous sont passés au four, sauf moi. C'est assez difficile à supporter. L'histoire de la culpabilité du survivant n'est pas d'une histoire banale.
Monsieur Hipólito dos Santos, quand est-ce que vous avez rencontré Monsieur Kaminski pour la première fois ?
Je l'ai rencontré en 69. À l'époque, j'étais dirigeant d'une organisation de lutte contre le régime des dictatures qu'il y avait au Portugal. Et il fallait toujours des faux papiers pour pouvoir entrer et sortir du pays. Et, c'est là que j'ai rencontré Adolphe. Plutôt que de faire des faux papiers, on était plutôt intéressé à qu'ils nous aident à mettre en place un système pour résoudre ces problèmes.
Plutôt que de vous donner du poisson, vous préfériez qu'ils vous apprennent à pêcher, quoi.
Oui, c'est ça.
Et c'était un bon professeur, alors ?
Ah oui, ça c'était un excellent professeur. J'ai moi-même, ensuite, j'ai formé d'autres copains en portugais et qui ont pu continuer à faire ce travail-là.
Il y a eu une diaspora des faussaires.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Il y a eu des papiers qui ont été produits pour le Portugal, mais également ça a servi pour les luttes de libération en Angola, en Amérique du Sud et ainsi de suite.
Ah non, nous on travaillait sur le Portugal. Et ça n'empêche que j'ai pu apporter des petites aides, mais très, très ponctuelles, au niveau de, par exemple, l'Uruguay, avec les Tupamaros, ou une fois ou l'autre avec les PAIGC de la Guinée-Cap-Vert. Mais ça a été seulement pour dépanner des situations.
Vous n'avez pas voulu, finalement, M. Kaminski, c'était une multinationale du faux papier à lui tout seul. En 71, donc 2 ans après votre formation, il libérait le marché puisqu'il se retirait du marché. Vous n'avez pas voulu reprendre ce marché à votre compte?
Ah non, pas du tout. Mon but, c'était le Portugal.
Et puis finalement, vous avez gagné, alors?
Ah oui, ça... Au Portugal, on a gagné. Il y a eu la révolution des œillets en 74. Et au Cap-Vert, en Guinée-Cap-Vert, il y a eu aussi l'indépendance. Et même en Uruguay, finalement, après tout, il y a eu une démocratie qui s'est implantée. Et aujourd'hui, le président de la République de l'Uruguay, ça a été quelqu'un qui avait fait 11 ans de prison et qui est aujourd'hui le président de la République, l'Uruguay.
Mais pas quelqu'un avec qui vous avez fourni des faux papiers, quand même.
Pas lui-même personnellement, hein. Mais un copain qui a dû venir en Europe, un copain dirigeant de Tupamaros, qui a dû venir en Europe et que j'ai moi-même travaillé pour qu'il trouve des papiers adéquats à l'Europe.
Voilà, ça donne des idées pour soutenir les sans-papiers, je pense. C'est pas sûr, mais c'est possible. Alors évidemment, Adolfo Kaminski l'a dit, a des enfants, dont une fille qu'il a évoquée, qui est l'auteur du livre dont nous parlons, Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire. Et puis il a 2 garçons, a-t-il dit, et un de ces garçons n'est autre que Rosé, un musicien fameux et un rappeur.
Alors, Rosé, toi, t'es le fils?
Oui.
Avoir un père qui... ça a fait de toi un rebelle ou...
Non, pas du tout. C'est, moi, je verrais même ça différemment. Je dirais que c'est plus, entre guillemets, un papa exemplaire d'une croyance en l'humanisme. Très loin des hormones et de l'arrogance et du point levé. Là, c'est vraiment plus un héros dans la discrétion, dans le long terme.
Tu consacres une chanson qui s'appelle « Je chante la France ». Et dedans, tu parles de ton père. Je sais pas s'il faut que je le lise, parce que moi, ça risque de pas tellement rapper, quoi.
Pas de soucis. Le morceau, on parle de tous ces gens-là, en fait, qui se sont battus contre la politique de la France. Pour, au final, faire en sorte que la France soit, entre guillemets, ressemblante à leurs idéologies.
J'ai la Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, eux-mêmes tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultes intenses, embellissent et chantent la France.
Et donc c'est des gens aujourd'hui que la France va mettre médaillé, comme voilà, comme mon père. Je parle aussi d'Aimé Césaire, je parle d'Olympe de Gouges, je parle de gens en fait, voilà, qu'on va finir par retrouver dans les livres d'histoire.
C'est-à-dire qu'au présent, ils sont combattus par l'État.
Voilà.
Au passé, on leur remet la Légion d'honneur, ça, et puis on les fait entrer au Panthéon, et puis il y a des noms de rues qui portent leur nom.
Voilà, exactement. Et c'est, entre guillemets, l'histoire appartient à ceux qui arrivent à la faire changer. Donc sur mon père, je dis, mon père a combattu Vichy et collaboration.
Mon père a combattu Vichy et collaboration.
Expert en faux papiers, c'est les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. Alors ensuite, la clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance.
La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance.
Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Ce sur quoi il s'est battu, c'était pour sauver des gens. Mais entre guillemets, effectivement, c'est l'honneur aussi de la France qui l'a sauvé. Parce que aujourd'hui, quand on va parler de Vichy, on va parler de résistance. Heureusement qu'on peut parler de résistance, parce que sinon, entre guillemets, la France aurait plus qu'à aller se cacher.
La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire, la langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière, installant dans les chaumières des mots révolutionnaires, enrichissant une langue chère à nombreux d'années de la terre. La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dans la fronde a embelli l'existence. distance. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin, mais fiers comme une mère. Patrie, voyant son enfant parti, mais qui jamais ne l'oublie. Qui défie l'intégration, si d'amnésie il s'agit. Rentre dans la patrie, si c'est pour en être grandi. Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité. Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance. Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer. Car c'est de ces échymoses que peut se construire la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris. Et les répliques aussi. Et le pays nous dit: chante et chante et chante la France.
Alors il y a une autre chanson. J'ai cru que tu parlais de ton père parce que j'avais déjà vu la tête de ton père. Faut décrire la tête de ton père. C'est la barbe blanche, le sommet du crâne complètement dégarni, des vieilles lunettes que portait Chirac en 1974.
Elles sont plus belles, celles-là, je trouve.
Et puis, les cheveux blancs qui bouffent un peu sur les côtés. Et quand j'ai lu Le Métèque, c'est une reprise de la chanson de Moustaki. Et là, ça commence par « Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, de rappeur blanc. » Je croyais que c'était ton père, mais en fait, c'est toi.
C'est ça. C'est ça.
Faut encore laisser pousser un peu plus la barbe pour le juif errant quand même.
Ouais, c'est vrai, mais ouais, j'ai commencé avec la moustache, mais maintenant faut que je continue.
Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, rappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. On dit que les humains s'organisent en tribus. Je titube en passant de l'une à l'autre et je me situe au beau milieu du vide dans mon être qui de visu n'aurait que le besoin de se sentir individu. Mais les patries se soudent et je glisse entre elles comme un savon. Que les préjugés mouillent, mais l'isolement forme les bulles qui me lèveront. Et dans ma tête, ma propre histoire, mon propre jargon me rend seul, indépendant et grand garçon qui espère ne jamais, ah s'il savait, faire tant de manières, avoir tant de fragilité, rendant si limité quand ils se plantissent dans la chaleur de leur communauté. Que j'aime les regarder dans la froideur d'une objectivité. Le courage en groupe est facile, on partage les craintes. Les opportunistes ouvrent leur piste, je ne réponds pas à l'appel. Je ne mange pas dans cette gamelle, mes pieds ne vont pas dans l'empreinte. Arabe loin des SOS racisme et je suis très loin d'Israël. Ô combien ce serait facile de suivre le groupe, n'importe lequel, tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe. Mais je redoute qu'on veuille me modeler coûte que coûte. Rien à foutre, je resterai seul sur la route médisant les troupes. Avec ma tête de métèque, de juif errant, de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, grimpeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans.
Déjà, ton père, c'est un peu compliqué à comprendre, parce que c'est un juif russe qui part en Argentine, qui est argentin, mais qui vit en France. Alors déjà, c'était compliqué à ce niveau-là, hein. Mais ensuite, il aurait pu simplifier pour l'étape d'après. Mais non, il faut que ça soit un juif qui se marie avec une musulmane, fille d'imam. Et donc toi, tu te retrouves à moitié juif, à moitié musulman, quoi.
C'est ça. On a de cesse d'être confronté à des gens qui nous demandent de choisir ce qu'on est, qui nous demandent d'ailleurs d'où on vient, quelles sont nos origines. Mais je pense que dans une autre époque et dans un autre lieu, c'est peut-être un morceau que j'aurais même pas imaginé écrire deux secondes.
Pendant toute ton enfance ou ton adolescence, on te l'a demandé, mais alors t'es juif ou t'es musulman ?
Non, parce que voilà, je pense que l'époque recule. Aujourd'hui, c'est à une époque, c'était dis-moi ce que t'écoutes ou dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus dis-moi tes croyances et tes origines et je te dirai qui tu es. Donc c'est comme une régression en réalité.
Moi, je me souviens du moment où ça a commencé à venir pour moi. Et on était au collège et c'était première guerre du Golfe. Et vraiment, les questions identitaires ont commencé à surgir dans la cité. On habitait une cité et tout d'un coup, avant cet événement, avant cette guerre, le seul moment où on parlait des origines, c'était quand il y avait une coupe du monde de football. Et là, tout d'un coup, la question identitaire est arrivée dans la cité par rapport à cette guerre du Golfe. On a commencé vraiment clairement à me demander si j'étais juive, si j'étais musulmane. Comme on est né en Algérie, on avait la nationalité argentine, à me dire oui, mais alors clairement, bah, t'es quoi ? T'es algérienne ? Bah non, t'es pas algérienne, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et j'ai jamais eu de rejet ni rien du tout, mais je pense qu'on aurait voulu me faire dire bah, moi je suis avec vous et donc pas avec les autres.
Quand on est argentin, c'est plus facile de répondre en matière de Coupe du Monde de football c'est que génial. De guerre du Golfe.
C'est génial de répondre argentin pendant la Coupe du Monde, ouais.
Et en lisant le livre, tu l'as lu le livre ou pas?
Ouais, qui est très bien d'ailleurs.
Oh, dis donc. Non, mais si toute la famille se met à cirer les chaussures les uns des autres, c'est un
grand génio. Qui est super.
T'as écouté son nouvel album?
Ouais, il est super.
Kaminski et compagnie, c'est une affaire qui tourne, quoi.
Voilà, Kaminski and Co. Voilà, donc prochaine, c'est bientôt côté en bourse.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Suzy, Belkacem, Hélène, José, Annette, Gilles, Luca. Le bouquin s'intitule « Une vie de faussaire » par Sarah. C'est chez Kalman Lévy. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique « Émission là-bas » si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Hier, l'émission n'était pas réécoutable sur là-bas.org, elle va l'être aujourd'hui. Je parle de l'émission d'hier. Et sur ces deux sites, vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez, que nous nous efforçons de mettre en ligne. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Mathias Alléon, Koye Nguyen et Raphaël Mouterne ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis, ou c'est-à-dire au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Autour de nous, de nombreuses personnes sont touchées par le cancer, par la maladie d'Alzheimer, par de graves problèmes cardiaques. Comment faire pour combattre toutes ces maladies? Moi, j'ai choisi de donner à la Fondation pour la Recherche Médicale. Elle s'investit dans tous les domaines de la recherche. Elle sait où sont les besoins.
Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale agit pour le développement d'une recherche de pointe au service de tous les malades. Parce que toutes les maladies doivent bénéficier de la recherche, faites un don à la Fondation pour la Recherche Médicale sur frm.org.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Qu'est-ce qu'on fait alors pour nos travaux de rénovation?
Je sais pas, on n'en connaît aucun.
Et l'autre là?
Lequel?
Celui que nous a conseillé Christophe.
Christophe? Oh, t'as vu comment c'est chez lui?
Ouais, t'as raison, on oublie.
Ah bah oui, on oublie. Oui.
Bon, mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Ben, on cherche.
Ne cherchez plus. Mettez-vous en relation avec les partenaires Bleu Ciel d'EDF pour voir vos travaux de rénovation suivis et réalisés dans les meilleures conditions. Contactez votre conseiller EDF Bleu Ciel au 39 29, prix d'un appel local depuis un poste fixe ou rendez-vous sur edf.fr. EDF, changez l'énergie ensemble. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour. Le montant du jackpot de ce mercredi est de 12 millions d'euros. Je répète, 12 millions d'euros.
Montant à partager entre les gagnants du premier rang.
MAF Assurance, bonjour.
Bonjour Miss MAF, 2,90%. Votre crédit moto est à 2,90%.
2,90% sur 12 mois, c'est bien ça.
2,90%? Alors là, j'ai plus rien à dire.
Moi si, et très vite. C'est une offre soumise à conditions réservées aux particuliers, valable du 1er mars au 31 mai 2010. Prêt moto affecté sur 12 mois de 1600 à 20 000 euros distribué par MAF IOB de ma banque. Aucun versement ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention de prêt d'argent. Et voilà.
Bon, mais c'est 2,90% quand même.
C'est la MAF.
Conditions de l'offre au 0800 517 566. Appel gratuit.
Voilà, il va être 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h. Pour la base, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec le titre du MES.
Et quelques nouvelles de la campagne des régionales après la claque du premier tour pour la droite. Nicolas Sarkozy tente de réconforter Xavier Bertrand. Le président de la République a déjeuné à l'Élysée avec le patron de l'UMP, Xavier Bertrand, critiqué par beaucoup des siens. Au Modem, plusieurs défections enregistrées aujourd'hui. Corinne Lepage, fondatrice du parti avec sa formation CAP21, a annoncé qu'elle quittait le parti de François Bayrou. Et elle n'est pas la seule. En Seine-Maritime, le président du Modem local démissionne et appelle à voter UMP au second tour des régionales dimanche prochain. Et puis dans cette campagne, ne manquez pas le face-à-face sur France Inter ce soir. Débat entre Benoît Hamon, porte-parole du PS, et Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP. Un débat arbitré par Jean-François Killy. Les questions du mercredi, c'est à 19h20 sur Inter avec Le Monde et Dailymotion. L'incendie du centre de rétention de Vincennes, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement. 10 peines de prison ferme allant de 8 mois à 3 ans à l'encontre des prévenus accusés d'avoir mis le feu au centre de rétention en 2008. L'ETA soupçonné de la mort du policier français. La fusillade a eu lieu à Damary-les-Lys en Seine-et-Marne hier soir lors d'une intervention sur un vol de voiture. Un homme a été interpellé. Il est recherché en Espagne pour des violences urbaines et accusé d'appartenir au mouvement de la Kale Borroka, considéré comme par la police espagnole comme la pépinière de l'ETA. Suite à la fusillade d'hier soir, plusieurs terroristes présumés sont recherchés. Les mineurs manifestent à Paris pour la gratuité de leurs soins. Ils étaient quelques 2000 mineurs à la retraite à défendre dans les rues de Paris leur régime spécial de sécurité sociale. Une récente disposition gouvernementale a supprimé certains de leurs avantages. Sauver le grand hamster, l'Alsace Nature et quatre autres associations écologistes ont déposé deux recours contre le préfet de la région Alsace sur des projets d'urbanisme dans les zones de survie de cet animal. Ce rongeur en voie d'extinction, il est protégé depuis 1993 et il ne resterait que 400 individus en Alsace où l'Europe a porté la Cour européenne de justice dénoncer la France pour non-assistance à ce mammifère en danger. Histoire et humour, France Inter fait toujours la course en tête sur Internet pour les téléchargements. 4 795 000 téléchargements en février en France, plus de 6 millions dans le monde. Et sur le podium, eh bien, bravo à Patrice Gélinet de 1000 ans d'histoire, largement devant. Suivent l'humeur de Stéphane Guillon et la chronique de Didier Porte. Et puis enfin, cette collecte au profit de la lutte contre le cancer du sein, ce sera dimanche à Paris au Trocadéro, organisée par l'association Pink Bra Bazar, une collecte de soutien-gorge.
And now.
System Disc.
Silicone ou icône? Je devenais.
Avec Vali. À la limite, je préfère un groupe qui arrive, qui fait un 2-3-4, qui balance la sauce.
On est bien d'accord. Voilà.
Sur un accord bien crétin.
Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est cheesy.
System Disc, le vendredi, de 22h à 23h.
De plus en plus de gagnants loto, j'écoute.
Monsieur et madame Pote ont un fils.
Je ne sais pas, au hasard, Jacques.
Eh oui, Jacques Pote.
Vous avez joué pour le jackpot de 12 millions de ce mercredi.
Mais non, moi j'ai gagné lundi dernier. Ah. Alors j'ai réalisé mon rêve, je suis devenu comique. Ah, attendez. Monsieur et madame, pas le dire, ont une fille.
Une fille.
Non, un fils.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
José.
Alors dépêchez-vous, ce mercredi, le jackpot est de 12 millions d'euros. Montant à partager entre les gagnants du premier rang.
FDJ, France Inter, partenaire de l'exposition Yves Saint Laurent jusqu'au 29 août au Petit Palais. À travers environ 300 modèles, de nombreux documents, photographies et films, le Petit Palais rend un vibrant hommage aux plus grands couturiers de la seconde moitié du XXe siècle. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. L'exposition Yves Saint Laurent, une exposition France Inter en partenariat avec Paris Match.
France Inter, la différence.
Et il est 16h05, c'est l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clotilde. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Clotilde Dumetz a parlé du podcasting tout à l'heure et vous êtes très nombreux à nous écrire pour demander pourquoi on ne peut pas garder l'émission, justement la podcaster. Ben c'est des questions de droits pour l'instant, les droits, ça n'a pas encore trouvé de résolution cette histoire, les droits des interprètes, les droits des compositeurs aussi, bon, on fait tout ce qu'on peut. Ça viendra peut-être un jour, même sûrement, allez, soyons tout à fait optimistes, d'autant plus que c'est la Saint-Patrick aujourd'hui, alors bonne fête aux Patrick, aux Patrice, aux Patricia et à tous ceux qui les aiment, et surtout à l'Irlande, aux Celtes en général, et puis voilà, joyeuse fête aujourd'hui, ce soir, tard dans les pubs, je sais que ça va danser, ça va chanter, et même à Paris, parce qu'il y en a, j'en connais. Alors voici un Irlandais fameux, John Field, qui a inspiré Chopin, on parle beaucoup de Chopin cette année, mais sans Field, probablement que Chopin n'aura pas écrit ses fameux nocturnes, un pianiste tout à fait talentueux, qui a commencé très jeune, qui a donné un concert mémorable à l'âge de 12 ans, Parlement et même le Morning Post a déclaré n'avoir jamais rien entendu d'aussi propre à démontrer la rapidité d'exécution et faisant preuve d'une telle expressivité musicale. C'est pas d'un style merveilleux, mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Phil va avoir une vie errante, il va voyager beaucoup, il va avoir beaucoup de succès, de Paris à Vienne, en passant par la Russie, où il va tomber malade, être opéré d'un cancer. Alors, on imagine une opération en ce temps-là, sans anesthésie, ça devait être assez pénible, évidemment. Quand je dis ce temps-là, Phil est mort en 1837. Voici un extrait du premier divertissement de John Field.